RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Thomas Porcher, aujourd'hui le prof d'éco, l'avocate Marianne Soubré, Barbara Lefebvre, Fred Hermel. Allez, on va tout de suite recevoir notre invité sans transition. Il s'est installé, c'est Fogg, Franz-Olivier Gisbert. On avait envie d'un journaliste expérimenté pour faire le bilan de cette campagne qui se termine ce soir.
Dire vieux, c'est ça?
Non, justement, j'ai dit expérimenté, par courtoisie. Non. Non, sérieusement, la campagne se termine. Est-ce que c'est pas l'une des campagnes les plus médiocres qu'on ait connues?
Oh, c'est la plus affligeante que j'ai jamais vue, mais pour des raisons objectives, qui sont d'abord, on avait un président sortant qui se représentait, et le président sortant, il fait toujours le même truc, il essaie de se présenter le plus tard possible. Et c'est pas Macron seulement, Mitterrand a fait pareil, enfin, ils font tous la même chose. Donc, ils se présentent in extremis. Ce qui fait que la campagne ne commence pas vraiment. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine, au moment où il sort, enfin, et où la campagne peut commencer, la guerre en Ukraine est... Tout est vitrifié, c'est-à-dire que on voit bien d'ailleurs, on le voit même, vous l'avez vu vous-même sur les audiences, oui. Tous les Français regardent la guerre en Ukraine puisqu'elle est en
image. Et pas la campagne présidentielle.
Et ils laissent tomber la campagne présidentielle. Donc il n'y a pas eu de campagne et du coup, comme il n'y a pas eu de campagne, enfin bon, il y a eu un début de campagne, il y a eu l'histoire Zemmour, etc. Mais c'est vrai que les thèmes sont un peu étranges parce que le pouvoir d'achat c'est fondamental, on est tous d'accord là-dessus. Et puis il faut redistribuer, on est d'accord là-dessus aussi. Mais donc, ça tourne, ça, c'est le thème aujourd'hui. Enfin, vous savez très bien que c'est pas le seul problème. La France aujourd'hui, d'abord, il y a un problème de crise économique financière grave qui va nous tomber dessus à un moment donné sur le paletot, avec la dérive des finances publiques, l'endettement, etc. Et puis, je dirais même sur le plan extérieur, mais ça, personne veut... parler du problème vraiment. Macron l'a un peu fait, mais il a tout remis dans sa poche. L'histoire de la défense européenne. Est-ce qu'il ne faut pas quand même que l'Europe, avec la France et peut-être la Grande-Bretagne, prenne en main sa propre défense? Parce que est-ce qu'on doit laisser la défense du vieux continent avec quand même... Il y a quelques fous aux portes de l'Europe, hein, aux confins de l'Europe. Il y a Poutine qui le montre aujourd'hui tous les jours. Il y a peut-être demain Erdogan ou d'autres. Donc il faut quand même. Si on tire la leçon de ce qui s'est passé, c'est vrai que si on avait eu des divisions en Europe,
c'est étonnant que ce sujet d'ailleurs n'a pas été abordé pendant le débat.
Bien sûr,
de 2h30.
Parce que il a fait ce qu'il a pu, le pauvre Macron. Mais combien de divisions l'Europe? Zéro. Donc il se moque. Et en attendant, l'OTAN, c'est là-bas, c'est aux États-Unis. C'est eux qui prennent les décisions. Tout ça est grotesque.
Alors, c'est aussi une campagne, peut-être.
Pour reprendre en main notre propre défense.
Mais c'est peut-être aussi une campagne médiocre parce qu'il n'y a pas vraiment eu de suspense, finalement.
Oui, mais ça, c'était aussi une des raisons. Mais vous savez très bien que ce n'est pas la seule. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est un peu angoissant, c'est que de cette campagne absolument affligeante sort un paysage politique extrêmement angoissant. Parce que Macron, il s'est présenté en 2017 un peu avec le programme de Valéry Giscard d'Estaing, 2 Français sur 3. C'était ça, 2 Français sur 3. Tout est du livre de Giscard. Il y a beaucoup de gens que ça n'évoque rien, mais enfin, c'était un projet politique, c'est-à-dire je vais gouverner la France à partir du centre droit, du centre gauche, et je vais avec ça faire une espèce de gouvernement un peu consensuel. C'était ce que disait Giscard, et un peu c'est ce que disait Macron, de manière peut-être plus moderne, avec son mot révolution, enfin révolution centriste, c'est-à-dire c'est pas de révolution, faut un peu rigoler. Mais bon, quand on le livre aujourd'hui, il est comique. Mais à l'arrivée, on a aujourd'hui 3 France. On dit 2 France irréconciliables. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est le deuxième tour. Mais en fait, il y a quand même 3 France. C'est-à-dire, et c'est une droite dure, une gauche dure. Moi, je peux employer les mots extrême gauche ou extrême droite aussi, je m'en fous, mais je veux dire, c'est parce que autour de cette droite, de cette extrême gauche, qui est représentée par la France insoumise, vous avez d'une droite, une gauche qui se, disons, plus traditionnelle, qui est en train de s'agglomérer. Vous allez voir, ça va marcher aux législatives. Et de l'autre côté, vous avez une extrême droite qui agglomère aussi de la droite. Et donc, on peut appeler ça droite dure, droite gauche. Et puis, un espèce de bloc qui se voudrait central, mais qui n'est pas. Parce que tout est coupé. Enfin, la France aujourd'hui, politiquement, est coupée en 3. Et en 3 avec 2 extrêmes. Et c'est un peu angoissant, si vous voulez.
Oui, parce que si le bloc central ne fonctionne plus et est battu, ça sera forcément un bloc radical qui prendra la suite.
Exactement.
Et il faut bien l'alternance en démocratie.
Oui, mais il faut de l'alternance et il y en aura de l'alternance. Et c'est très bien, il faut de l'alternance. Mais c'est vrai que moi, je suis peut-être, alors vous faisiez allusion à mon âge tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis resté dans la bonne vieille tradition. Et d'ailleurs, c'est ce qui marche, je vous signale, à l'étranger. Vous regardez autour de nous en Europe et des gouvernements d'ailleurs qui font des choses. Il faut une alternance droite-gauche.
Après, il y a souvent aussi des gouvernements de coalition.
Alors c'est pas notre système. Mais c'est bien aussi.
Mais c'est bien aussi. En ce moment, par exemple, même en Italie, en Allemagne.
En Allemagne, etc. Mais il y a quand même, en gros, c'est une gauche et une droite qui vont au pouvoir alternativement. Aujourd'hui, ça va plus être possible en France. Et je crois que ça pose vraiment un problème. Et surtout, je termine là-dessus, quand on regarde les élections, mais c'est fascinant, mais ça nous fait honte d'ailleurs, les dernières élections régionales en Allemagne à l'automne, l'extrême droite, alors qu'il y a eu quand même une grosse immigration en Allemagne, mais l'immigration a été gérée différemment, c'est-à-dire de manière un petit peu plus volontariste. Hein. On les intègre, on fait tout pour les intégrer. Bon, et puis ils n'arrivent pas avec tous les droits, ils ont aussi les devoirs, enfin, etc. Bon, en tout cas, en Allemagne, l'extrême droite est laminée et n'existe pas, et l'extrême gauche est en voie de disparition. Donc voilà, vous avez ça, c'est tout juste à côté de chez nous, on avait les résultats.
Donc il y a un peu une exception française.
C'est exactement le contraire, il y a une exception française. Alors je finis là-dessus. La France aujourd'hui, c'est un peu l'homme malade, si vous permettez l'expression, économiquement et politiquement. Et politiquement, et c'est vrai que c'est un peu angoissant. Voilà.
Marianne.
J'essaye de comprendre parce que effectivement, je vois bien les deux blocs, gauche et droite, mais au milieu, comment est-ce qu'on peut agglomérer l'ancien PS jusque quand même des LR qui sont limite de basculer de l'autre côté? J'arrive pas à comprendre la cohérence de ce bloc du milieu en fait.
C'est l'auberge espagnole.
Forcément, il n'y a pas de cohérence parce qu'il y a un bloc centriste, comme vous faites allusion à ce grand bloc du milieu, et ce grand bloc, il ne peut pas avoir de cohérence politique.
Emmanuel Macron a bien réussi à gouverner 5 ans.
Mais oui, mais ça dure un temps.
Il n'a pas eu de fondeur, hein, à l'Assemblée.
Ça dure un temps, mais c'est de toute façon, attendez, déjà, à l'intérieur de la gauche, il n'y a pas toujours de la cohérence, à l'intérieur de la droite non plus, on le sait historiquement.
Donc là, ça risque plus compliqué pour lui-même avec sa propre majorité.
Mais attendez,
avec Édouard Philippe,
ils sont tous d'accord, c'est forcément, ce n'est pas possible. Bon. À l'intérieur de la gauche aussi, il y a des quand c'était l'union de la gauche avec les communistes et les socialistes, c'était pas simple non plus. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que cette politique. Alors, je suis pas en train d'accuser Macron, ce serait grotesque, parce que de toute façon, ça a marché. Et pourquoi il continuerait pas? Mais c'est vrai que c'est les Français qui l'ont choisi.
Ça, c'était un pari politique.
Oui, c'est
donc Macron, il s'est dit, on va mettre les deux extrêmes.
Oui.
Comme ça, je vais être la bloc centrale.
Bien sûr.
Et celui, en fait,
mais il est pas responsable. Sont... Nous, on a marché. Les Français ont voté, et c'est eux qui l'ont voulu. C'est pas Macron. C'est pas lui le responsable, c'est nous
aussi. C'était une stratégie politique.
Politique. Et nous, il faut qu'on réfléchisse sur le résultat, parce que moi, je fais partie de ceux, je suis désolé, qui regrettent la quasi-disparition du Parti socialiste, qui a été quand même très utile. Il y a des gens très bien à l'intérieur du Parti socialiste. Moi, j'espère qu'il va repartir à zéro. Mais là, évidemment, à zéro, parce qu'il est à la main en ce moment d'une bande de je sais pas comment appeler ça, croque-mort. c'est vraiment les pompes funèbres, c'est la menthe et deux bras cassés. Bon, il y a des gens comme Stéphane Le Foll, le maire du Mans, il y a des gens qui peuvent reprendre la suite, essayer de faire repartir le truc, comme Mitterrand l'a fait en 1971, avec le Parti Socialiste.
C'était Mitterrand, c'est-à-dire que il y a aussi un problème peut-être de leadership.
Mais attendez, les leaders, ça se crée, parce que Mitterrand, franchement, en 1965, c'était rien du tout, il s'est présenté, et c'était un type qui avait plein de casseroles, etc. Avez vu le parcours après. Faut arrêter de dire les gens, c'est fini.
Justement.
Et même chose à droite, on a besoin aussi d'une droite qui remonte la pente, ça c'est clair.
Si Macron est réélu, comme semble l'annoncer les sondages, il ne pourra pas se représenter dans 5 ans. Vous connaissez très très bien ce milieu. Est-ce que vous détectez là déjà de possibles successeurs de Macron, quel que soit le parti politique? Est-ce que vous sentez dans ce pays, David Lisnard par exemple, à Cannes, Michael Delafosse,
Laurent Wauquiez aussi, il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Stéphane Le Foll, pourquoi pas, Carole Delga, enfin voilà.
Il y a encore dans ce pays des gens qui pourraient créer un certain enthousiasme, comme l'avait créé Macron il y a 5 ans.
Oui, alors simplement, je pense qu'il faut repenser un peu nos institutions. C'est-à-dire, c'est clair que moi, je suis attaché à la Constitution de la Ve République, quand même pas l'être. Enfin, c'est par rapport à tout ce qu'on a eu, la Troisième République, la Quatrième République. Franchement, elle est. Mais faut mettre un petit peu de proportionnel, pas beaucoup, mais un peu. Que des gens soient qui ne sont pas représentés aujourd'hui aient quand même un peu l'accès à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez très bien cette Assemblée aujourd'hui, surtout avec cette France divisée en trois, trois blocs. Il faut quand même que des gens des deux autres blocs soient représentés, que ce soit pas juste un seul bloc.
Ils le seront pas forcément d'ailleurs.
On est d'accord, François-Olivier Gébert, mais vous qui connaissez justement bien la Ve République. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut continuer avec des élections qui, les unes derrière les autres, sont des élections de défiance et de rejet? Je ne vote pas pour, je vote contre. Première question, le manque d'offres politiques qui donne l'adhésion. Et deuxièmement, on se plaint de l'alternance, mais comment voulez-vous qu'il y ait une alternance avec la réforme du quinquennat qui aligne les législatives sur les présidentielles? Donc on voit bien que l'esprit même, c'est pour ça que moi je trouve indigne, mais littéralement indigne, que Emmanuel Macron vienne se faire le défenseur de la constitution de la Ve République, alors que avec le quinquennat, on a foulé aux pieds la constitution de la Ve, sans parler du référendum de 2005. Donc je ne vois pas comment on peut avoir autre chose que cette tripartition qui est une impasse, parce que le système institutionnel, avec le scrutin majoritaire, l'alternance impossible, je ne vois pas comment on pourrait le faire sans changer le système.
Alors, Barbara Lefebvre, c'est horrible, parce que chaque fois que j'entends, je me tais, parce qu'évidemment, je suis totalement d'accord avec elle, comme quand elle parle des animaux. Ah. Mais je suis tellement d'accord. Évidemment, j'ai voté non au référendum de 2000, qui réduisait le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Pourquoi? C'est une énorme connerie. On changeait de système, on américanisait le système politique français, et qui fait que d'ailleurs, aux États-Unis, moi j'ai vécu là-bas, j'ai suivi les politiques, dès que le type est élu, immédiatement, on pense à la suite.
Oui.
Parce que c'est tout de suite, c'est dans 4 ans.
C'est 4 ans, hein,
bon,
c'est trop tôt.
Et bien sûr, c'est absurde. Ouais. Et nous, c'est vrai que c'était la constitution de la Ve République qui était extraordinaire. Quand vous pensez bien que De Gaulle l'a peine lu, mais il savait que Michel Debré fait à peu près le boulot, donc il a râlé un peu parce qu'il y avait des trucs sur les droits de l'homme. Mais bon, il n'avait pas lu, vous voyez, il n'avait pas lu. Mais on savait très bien ce qu'il voulait. C'était quoi? C'était résumé comme ça. Il voulait faire du président de la République une sorte de, je le fais à la De Gaulle, le règne d'Angleterre. Vous voyez, c'était ça. Et l'idée, donc, le président devait être un peu au-dessus. Et d'ailleurs, le Premier ministre gouvernait. C'est ça le bon système.
Sauf que là, maintenant, voilà, le Premier ministre est un directeur de cabinet.
Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire, et là, je réponds à votre question qui était tout à fait intéressante. C'est-à-dire, il faut, à mon avis, la bonne chose, si on veut que ça reparte la politique en France, je pense qu'il faut revenir, effectivement, au septennat le plus vite possible, mettre de la proportionnelle, parce que c'est impossible que des... il y a quand même des masses de gens qui votent pour le Rassemblement National et pour la France Insoumise. Ils doivent être un petit peu plus représentés à l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire surtout le Rassemblement National, il n'y a pratiquement pas de députés. Donc, tout ça, c'est absolument fondamental. Et je dirais, il faut aussi revenir au cumul des mandats. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand
de
j'ai
nouveau,
vu...
De nouveau, les élus cumulés.
Ils sont détachés complètement.
Tout a été fait. Regardez d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la République En Marche? Ce sont des gens qui ne représentent rien, décapités, etc. Bon, ils vont tous se représenter, ils seront peut-être réélus. Mais, si vous voulez, ça nous éloigne de la politique. Qu'est-ce qu'on a besoin? La France est un pays jacobin, hélas. Bon, enfin, c'est comme ça. Moi, je vis en province, c'est vrai qu'on le sent, on le ressent. Tout est à Paris, les médias sont à Paris, c'est le seul pays européen, tous les médias
c'est
sont
vrai,
à Paris.
C'est
grotesque. Ouais, les médias nationaux, vous allez en Italie, il y en a un par grande ville, en Allemagne, j'en parle pas.
Grotesque.
Ils sont à Hambourg, ils sont à Berlin, ils sont partout, et pas seulement dans la capitale. Donc ça, c'est. Et je pense que. J'ai vécu, comme jeune journaliste, je me souviens, ces personnages, ces barons, on les appelait les barons, il fallait couper la tête des barons.
Mais
on a
aussi,
voulu
c'était...
couper. La tête. On a décapité la tête de tous ces gens. Vous vous souvenez
parce qu'il y avait des excès aussi, il y avait des gens qui cumulaient,
oui,
et au bout d'un moment, ils ne font plus rien. Ce sont des barons et des notables.
D'accord, mais en général, ils étaient battus. Et les grands barons, je pense à par exemple Georges Frêche, je vous citais Michael de la Fosse, je pense à Georges Frêche à Montpellier, mais c'est juste absolument extraordinaire. C'est-à-dire que comment il a transformé sa ville. Et
parce
aujourd'hui,
qu'être député-maire, ça apportait des choses.
Mais ça apportait des choses, voilà. Bien sûr. Ça... Il est un peu ministre. Regardez le travail. Oui, je parlais de Georges Frêche qui était lui socialiste. On peut parler aussi, par exemple, d'un ancien LR, de macroniste, Christian Estrosiani. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'est des gens. Vous voyez, ils ont plusieurs mandats et ils profitent évidemment pour défendre leur pour défendre leur municipalité. Et je dirais même que ça permet aussi, dans des coins des départements totalement excentrés, à des petites villes de tenir comme ça grâce aux députés maires d'une ville moyenne. Donc on a complètement d'ailleurs oublié cette France des villes moyennes. C'est le corps de Marine Le Pen, bien sûr. C'est que évidemment cette France des villes moyennes
qui est arrivée en tête dans de nombreuses villes,
elle est absente. C'est la moitié des Français.
22 000 villes ont placé Marine Le Pen en tête.
Et c'est la moitié des Français vivent dans des villes moyennes. Faut pas des petites villes ou des villes moyennes, il ne faut pas l'oublier. Ceux-là sont inexistants. On a eu la crise des Gilets jaunes qui nous l'a rappelé. Et vous aurez sûrement d'autres crises de ce type si ça continue. Parce qu'on le voit très bien à travers les discours des uns des autres, à travers aussi le discours dominant. Quoi.
En tout cas, dimanche, on aura soit un président, soit une présidente.